Bonjour Bernadette Chamonnaz.
Bonjour et tout de suite une bonne nouvelle dans cette crise. Elles sont si rares ces bonnes nouvelles. L'Élysée annonce depuis quelques minutes la libération de Roland Marchal. Il était emprisonné en Iran depuis juin. Il doit arriver en France dès ce samedi. Fariba Adelka est en revanche toujours détenue. La crise, là il y a urgence. Doubler les capacités des services de réanimation. On redoute une vague encore plus violente à partir de ce week-end, notamment en Corse, d'où plusieurs malades vont être évacués par la marine. 4 fabricants de masques réquisitionnés par l'État, ils vont relancer la production jusqu'en septembre. Congé RTT, les employeurs pourront-ils revenir sur une partie du droit du travail? Les députés à nouveau en séance ce matin. Nous irons à Londres à la rencontre des derniers buveurs avant fermeture des pubs hier soir. Et puis pour s'évader, un conseil littéraire France Inter.
Et puis les invités de la matinale également. À 8h10, Patricia Martin, vous recevrez
Christina Comencini pour son livre « Quatre amours », c'est chez Stock.
Et puis à partir de 8h20, question à la députée La République En Marche, Olivier Grégoire. Et on attend vos commentaires sur les dernières décisions de l'exécutif. Le standard est ouvert. C'est au 01 45 24 7000.
France Inter.
Roland Marchal a donc été libéré il y a quelques heures. Le chercheur français était emprisonné en Iran depuis le mois de juin 2019. L'Élysée annonce cette libération et précise que Roland Marchal est attendu sur le sol français en milieu de journée, ce samedi donc, au grand soulagement de Jean-François Bayard, professeur à l'Institut des Hautes Études Internationales et du Développement de Genève, le coordinateur de son comité de soutien.
Nous sommes immensément soulagés. Il faut maintenant qu'il subisse des examens médicaux, qu'il reste en confinement car il a été exposé au coronavirus, qu'il se repose, qu'il retrouve ses esprits et ses lectures et qu'il reprenne ses travaux. Ses collègues sont là, ils l'ont attendu pendant plusieurs mois. Ils l'attendront pendant quelques jours, voire quelques semaines de plus. Nous tenons à remercier les autorités françaises qui n'ont pas ménagé leurs efforts. Le chemin n'est qu'à moitié parcouru. Fariba Adelka reste en détention de manière complètement injustifiée et nous persistons à réclamer sa libération immédiate et inconditionnelle.
Et Emmanuel Macron d'ailleurs exhorte les autorités iraniennes à libérer immédiatement Fariba Adelka, chercheuse anthropologue. Elle est toujours emprisonnée en Iran également depuis juin dernier.
L'actualité en France notamment avec cette injonction, vite monter la digue contre la vague qui arrive.
Les spécialistes alertent, elle va grossir encore cette vague dans les 48 heures qui viennent. Urgence, préparer les hôpitaux qui sont encore épargnés par l'afflux de malades graves, notamment en Île-de-France, où les 39 établissements de la PHP tentent d'amplifier, voire de doubler les capacités en réanimation. Actuellement, 250 patients atteints du virus sont accueillis en réanimation. Objectif, avoir demain soir 600 lits disponibles. Réorganisation aussi dans les hôpitaux de Corse, Jérôme Val.
L'hôpital d'Ajaccio dispose de 15 lits en réanimation pour les personnes atteintes du Covid-19. Hier, 13 étaient occupés par des patients et pour faire face à l'arrivée inexorable de malades dans les prochains jours, la capacité d'accueil de l'établissement va presque doubler, 26 lits ouverts grâce à l'envoi de respirateurs. La direction de l'hôpital prévoit même d'aller plus loin si nécessaire. Une vingtaine de lits supplémentaires pourraient être mis à disposition des personnels au moment du pic, à condition d'avoir suffisamment de matériel et là c'est plus complexe, les délais d'acheminement sont généralement très longs. La Corse est proportionnellement l'une des régions françaises les plus touchées. Hier, l'Agence régionale de santé a comptabilisé sur l'île 168 cas depuis le début de l'épidémie, 85% dans le secteur d'Ajaccio. Face à cette situation qui va s'aggraver, la Corse fait partie des régions qui seront rapidement saturées en cas d'afflux massif de malades, d'où la première mesure prise de manière préventive ce week-end d'évacuer des patients sur le continent.
Des patients qui seront évacués par un navire de la marine nationale qui doit accoster à Ajaccio dans les prochaines heures. À Mulhouse, l'armée aura monté d'ici la fin du week-end l'hôpital militaire qui va accueillir de 30 patients. Des masques hier, le secrétaire d'État à l'intérieur, Lorland Nunez, affirmait que les masques étaient livrés en continu. Plus de 12 millions sortis des stocks de l'État, livrés aux pharmacies. 10% pourtant assurent qu'elles n'ont pas été livrées. 4 fabricants ont été réquisitionnés par l'État. L'entreprise Paul Boyer Technologies en fait partie. Son patron joint par Stéphane Iglesis.
Actuellement, nous fabriquons 500 000 masques par semaine. Nous allons monter rapidement au double à 1 million de masques par semaine, puis à 1 million et demi de masques par semaine d'ici un mois. Et enfin, on sera à 2 millions et demi de masques par semaine pendant l'été. Ça veut dire 10 millions par mois. On a même des gens qui, de façon bénévole, se sont proposés pour venir nous aider, et notamment des gens qui sont en chômage technique dans d'autres entreprises qui viennent aujourd'hui nous aider.
En ce qui concerne le volet financier des mesures d'urgence, le Parlement a adopté plusieurs mesures. Il anticipe notamment un lourd impact de l'épidémie sur l'économie avec une récession de 1%. Les députés qui poursuivent leurs travaux ce week-end, Sarah Tuchérer.
L'Assemblée nationale a dû revoir son calendrier. L'examen en séance du projet de loi d'urgence sanitaire prévu hier à 15h a été repoussé à ce matin pour laisser le temps à la commission d'étudier les 120 amendements déposés. Plusieurs points font débat. D'abord, l'organisation du second tour des municipales, où l'on voit un clivage d'un côté droite et gauche, socialiste et communiste. Plutôt satisfait des résultats de dimanche dernier, elle plaide pour un dépôt des listes pour le second tour au plus tard le 31 mars. De l'autre, La République En Marche et La France Insoumise, qui attendaient peu de ce scrutin. Les deux mouvements, pour une fois à l'unisson, expliquent qu'il est incongru d'imaginer dans ce contexte des tractations en vue de fusionner des listes. L'autre gros point d'achoppement, ce sont ces dérogations au droit du travail permises sur ordonnance pendant l'état d'urgence. Là, on retrouve la division classique entre la majorité qui fait de la poursuite de l'activité économique une priorité et la gauche qui défend une protection maximale des salariés. Pour faire passer ces mesures d'urgence, le gouvernement voulait aller vite en appelant à l'unité nationale. L'opposition lui rappelle qu'elle n'entend pas abdiquer son rôle de contrôle de l'action de l'exécutif.
Le gouvernement qui lance aussi une sommation aux Français, restez chez vous, message qui sera notamment diffusé par haut-parleurs, par des drones, des policiers, des gendarmes déployés dans les gares, accès aux plages interdits, des marchés de plus en plus interdits par les maires, confinement jusqu'à fin mars et qui sera certainement prolongé. Peu à peu, le monde s'enferme, un septième de l'humanité. Au Royaume-Uni, toujours pas de telles mesures, mais tous les cafés, pubs, restaurants ont fermé hier soir. Antoine Gignot est allé à la rencontre de ceux qui buvaient un dernier verre.
Rue déserte dans le quartier de King's Cross. Plus un restaurant ouvert, les derniers fêtards se réfugient dans un bar de quartier.
We came for the last drink. We saw the
On est venu boire un dernier verre, lance Richard. On a saisi notre chance. Ils viennent de fermer tous les pubs et ça, on ne peut pas vraiment s'en réjouir. À long terme, c'est une bonne chose. Il faut qu'on soit vigilant et qu'on fasse attention à tout le monde. Cette attention, cette vigilance, elle fait déjà partie du quotidien de Vicky. Elle vient de passer une semaine en France avant de rentrer à Londres et elle s'attend à des mesures similaires. Ça arrive assez soudainement, comme en France, dit-elle. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Et à ses côtés, Rudy poursuit. Je pense qu'il va se passer la même chose qu'à Paris. Les pubs et les bars ferment, mais ce week-end, s'il fait beau, il y aura des milliers de personnes dans les parcs et après, Londres sera sous confinement total. Le confinement, Boris Johnson n'en parle toujours pas ouvertement. Mais le Premier ministre annonce des mesures pour maintenir le salaire des employés qui ne pourront pas travailler dans les prochaines semaines. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Plus de pub alors pour s'évader, ben rien de tel qu'un bon livre. Même si, Ilana Moriousev, votre proposition est plutôt paradoxale. L'annexe de Catherine Mavrikakis.
C'est un effet miroir assez troublant. Dans ce roman, Anna, l'héroïne, est une espionne fascinée par Anne Frank et par l'annexe où elle s'est cachée avec sa famille avant d'être arrêtée et déportée. Un beau jour, c'est Anna l'espionne qui se retrouve confinée elle aussi dans un appartement. Son annexe à elle est un lieu où sont regroupés des espions menacés et des témoins gênants. Catherine Mavrikakis.
Je connais l'œuvre d'Anne Frank depuis que je suis toute petite. J'ai eu l'impression qu'elle m'a accompagnée à travers ma vie, c'est-à-dire que elle était là à chaque fois que j'en avais besoin. Elle avait réussi dans des conditions qui étaient horribles à pouvoir s'échapper par l'écriture. Et j'avais envie que mon personnage puisse s'échapper du monde dans lequel elle est enfermée par la littérature.
Dans le vaste appartement où elle est confinée, Anna ne doit pas dévoiler son identité aux autres locataires. Une joute littéraire et mortelle s'engage entre elle et son serviteur geôlier.
Au moment où elle est prise dans l'annexe, elle va retrouver son passé. Et son passé, c'est tout ce qu'elle a lu. C'est sa place de lectrice qu'elle retrouve. C'est là qu'elle était vraie en lisant des fictions. C'est ça un peu le paradoxe. Être soi, c'est être au plus près de toutes les fictions que l'on se raconte.
C'est la littérature qui sauve la vie d'Anna. Pour savoir comment, il faut lire le livre.
Et je vous rappelle donc l'information de cette matinée, la libération par l'Iran du chercheur Roland Marshall.
C'était le journal de Bernadette Chamonaz. Le temps avec vous, Jean-Michel Golinski, et une différence assez sensible entre le nord et le sud aujourd'hui.
Ah, tout à fait, Eric. Différence déjà au niveau de l'étendue nuageuse, souvent compacte, du nord de la Loire au quart nord-est, avec tout de même un ciel moins lourd prévu sur la Bretagne et les Hauts-de-France. Des pluies faibles vont émailler la journée entre le bassin parisien et la frontière allemande, s'accompagnant de flocons sur les Vosges. Et puis à noter le vent de secteur est très désagréable sur toute la moitié nord du pays, avec une baisse sensible des températures par rapport à hier, entre 4 et 8 degrés en général, jusqu'à 12 sur la Lorraine et l'Alsace. Dans la moitié sud, temps dégagé ce matin, devenant progressivement plus variable, avec un risque d'averse à proximité des reliefs. Dans le golfe du Lion, retour d'éclaircies en journée après une matinée contrariée par les entrées maritimes, le tout dans des températures à peu près du même niveau qu'hier.